Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi, c'est arrivé aujourd'hui.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Nous sommes un 15 novembre, direction l'année 1793. La Révolution invente le pain égalité, un pain unique pour tous les Français. Deux siècles plus tard, cette idée d'un pain pour tous s'incarne dans la baguette. Devenue emblème national, inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2022, de symbole républicain à icône mondiale, le pain raconte encore une histoire de France qui veut l'égalité jusque dans ses assiettes. Les explications d'Iléna Guyochon.
Impossible d'imaginer la France sans sa baguette. Symbole de partage, de tradition et même d'identité nationale. Mais ses racines plongent bien plus loin que la belle époque, jusque dans les heures les plus agitées de la Révolution. Ça s'est passé un 15 novembre 1793, ou comme on disait alors le 26 Brumaire en deux. Ce jour-là, la Convention adopte un décret inédit. Désormais, tous les Français mangeront le même pain. Un pain unique pour un peuple égal. De ce pain appelé égalité à la baguette d'aujourd'hui, s'écrit une histoire bien plus vaste, celle d'un aliment à la fois politique et profondément français. Car au fil du temps, le pain n'a pas seulement nourri les corps, il a aussi reflété les inégalités, les révoltes et les espoirs du pays. Lorsqu'on caricature un Français, on l'imagine souvent avec une baguette sous le bras. Pourtant, bien avant d'être un emblème national, le pain fut un enjeu politique et spirituel. Alors en effet, dès le XIe siècle, il devient l'aliment essentiel des paysans et avec l'expansion du christianisme, il prend une valeur sacrée. Au XVIIIe siècle, la libération du commerce des grains provoque une flambée des prix. Les révoltes se multiplient, notamment lors de la guerre des farines en 1775, annonçant déjà la colère qui mènera à la Révolution. Et c'est donc en 1793, le 15 novembre, que la Convention instaure le pain égalité. Fini les pains blancs pour les riches et les pains noirs pour les pauvres. Désormais, un seul pain pour tous. Il sera simple, fait de froment, levain, eau et sel, mais porteur d'un symbole immense, celui d'une France qui veut l'égalité jusque dans les assiettes. Le décret de la Convention est clair, je cite, « Tous les boulangers seront tenus, sous peine d'incarcération, de faire une seule et bonne espèce de pain. » Et le ton est donné. Alors l'origine de la baguette, elle reste plus mystérieuse, on lui attribue au moins trois histoires différentes. Mais en réalité, la baguette est née d'une évolution des habitudes urbaines. Car au début du XXe siècle, une loi de 1919 interdit le travail de nuit des boulangers. Résultat, il faut produire plus vite pour que le pain soit prêt à l'aube. Les boulangers abandonnent les grosses boules de pain trop longues à préparer au profit d'un format plus fin et plus rapide à cuire. Le mot « baguette » apparaît pour la première fois en 1904 dans un manuel de boulangerie. Elle mesure alors environ 80 cm pour 250 grammes et c'est entre les deux guerres mondiales qu'elle conquit toute la France. Selon les régions, on l'appelle « flûte » ou « petite » et son prix reste fixé par arrêté préfectoral jusqu'aux années 1980. Dans les années 1970, la grande distribution s'impose. Les supermarchés vendent des baguettes à bas prix, issues de fabrication industrielle. En 1976, un boulanger attire les médias avec la baguette à 1 franc, bien en dessous du prix habituel. C'est un scandale.
deux manières de gagner son pain aujourd'hui. Le vendre le plus cher possible, ce qui vous donne la baguette entre 1,40 francs et 2 francs, ou le vendre en grande quantité à un public plus large, et ceci sans dépasser la barre des 1 franc.
La profession dénonce une concurrence déloyale et la montée de pains fades, truffés d'additifs chimiques et de farine traitée. L'arrêté de 1978 provoque une hausse de 8 à 10% du prix du pain, censé améliorer les salaires et les conditions de travail. La liberté totale des prix n'arrivera qu'en 1987, avec un décret autorisant chaque boulanger à fixer librement ses tarifs.
Vous augmentez combien ce matin le prix ? 15 centimes pour le pain ?
Pour le pain.
Et pour les croissants ?
10 centimes.
Et pour la pâtisserie ?
10 centimes, ce qui est logique, quoi.
2,50
L'augmentation s'est mise à départ partout, quoi. Par la base déjà la farine et puis tout ce qui suit, quoi.
D'ailleurs, cette liberté totale des prix est encore en vigueur aujourd'hui. Et déjà, ça ne fait pas plaisir aux consommateurs.
Combien vous l'avez payé en plus, votre pain, ce matin ?
10 centimes de la baguette.
Ça va compter dans votre budget, maintenant ?
Je pense, oui, surtout pour les retraités.
Les grandes surfaces s'engouffrent dans la brèche et cassent les prix. La guerre du pain est déclarée.
Une des plus célèbres institutions françaises, la baguette de pain traditionnelle, est menacée. Les Français mangent de plus en plus de pain fabriqué en usine, au détriment de la baguette artisanale confectionnée et pétrie par le boulanger. Et pour réhabiliter la vraie baguette, le gouvernement français a décidé de promulguer un décret qui permettra de la reconnaître.
Face à la colère des boulangers, le gouvernement d'Édouard Balladur promulgue, le 13 septembre 1993, le fameux décret pain. Il encadre la fabrication de la baguette de tradition française, uniquement farine de blé, eau, levure ou levain et sel. Trois adjuvants sont tolérés, un peu de farine de fèves, de soja ou de malt de blé, mais rien de plus. Cinq ans plus tard, le 25 mai 1998, une nouvelle loi réserve le nom de boulangerie à ceux qui pétrissent, fermentent, façonnent et cuisent eux-mêmes leur pain sur place. Une victoire pour la boulangerie artisanale, protégée face à l'industrie. La guerre du pain, entamée dans les années 1980, se poursuit encore aujourd'hui. Les boulangers dénoncent l'utilisation du pain comme produit d'appel par les grandes surfaces et l'annonce des baguettes à 29 centimes d'un supermarché bien connu relance le débat. Faut-il fixer un prix minimum pour cet emblème national ? Du pain égalité de 1793 à la baguette de tradition, plus de deux siècles se sont écoulés. Mais l'esprit reste le même, un pain fait pour tous, symbole de partage et d'identité. Parce qu'en France, rompre le pain, c'est encore un peu rappeler qu'à table, tout le monde est égal.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu, soudain. Si les chances comment sommes-nous venus là, qui nous a égarés là, nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir.
Et c'était notre ami suisse Stéphane Echer qui revient avec un tout nouvel album et ce single Poussière d'or. Voilà, courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme SBS en ce samedi.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Le Gall, trésorière de l'association FANS, French Speaking Association de North Shore, et coordinatrice du marché français annuel de l'école publique de Killarney Heights. Bonjour Sophie.
Bonjour François.
Alors Sophie, la pression monte, l'excitation monte, on se rapproche du 16 novembre, qui sera une journée de fête dans le nord de Sydney, avec l'organisation du fameux marché français du North Shore. C'est un événement marquant pour toute la communauté francophile et francophone de Sydney. Hein.
Oui, en effet, oui. C'est un événement, c'est le plus gros événement de notre association, qui déroule donc une fois par mois au mois de novembre. Et cette année, c'est la 19e édition du marché français à Killarney.
Voilà. Alors, le marché français, c'est une superbe occasion de préparer ses achats Noël. Hein. Il y aura un parfum de France. Combien d'exposants vont participer au marché Noël cette année? Enfin, marché Noël, marché français.
Oui, qui se fait un petit peu avant Noël. Donc, comme ça, tout le monde peut en profiter pour acheter des cadeaux. Donc, nous avons environ à peu près 70 stands. Donc, question cadeau, vous pouvez. Donc, il y aura des vêtements, des bijoux, des articles de maison, de décoration. Et généralement, tout est inspiré de la culture francophone.
Alors, il n'y a pas seulement des cadeaux de Noël, il y a aussi de belles découvertes. Il y a des nombreux stands qui sont aussi tenus par des bénévoles, des amis ou des parents de l'école, avec de bien belles initiatives, notamment des livres en français, et des vêtements de seconde main. Pouvez-vous nous raconter un petit peu l'investissement de tous ces bénévoles et quels sont les stands qui seront proposés par les parents, entre guillemets?
Oui, alors en effet, donc, comme nous l'avons dit, nous avons les stands professionnels qui proposent de la nourriture et d'autres articles. Et à côté de ça, nous avons nos stands tenus par nos bénévoles qui sont principalement des parents des enfants de l'école de Killarney Heights. Donc, nous aurions, les favoris sont toujours, on va dire, les crêpes, les gaufres, les croque-monsieur. Et cette année, nous avons aussi les sandwichs de baguette. Donc, c'est une nouvelle édition cette année. Et là, voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Donc, ça, c'est pour ce qu'il y a à manger. Et donc, c'est tenu par, voilà, c'est des bénévoles qui travaillent quand même depuis quelques mois pour commencer à préparer les quantités, les achats et tout ça, et pour préparer pour avoir le nombre de bénévoles pendant la journée, pour servir tous les visiteurs.
Alors, on parle de stands de nourriture, bien sûr, mais on a aussi des stands un peu plus particuliers, avec notamment, je crois qu'il y a des livres d'occasion en français qui est très, très populaire aussi, hein.
Oui, c'est vrai. Non, après, tu as raison. Donc, on a un grand. Je crois que c'est la plus grande vente de livres d'occasion en français dans la Nouvelle-Galles du Sud. Donc, on a des livres pour enfants et pour adultes et aussi beaucoup de magazines en français. Et donc, ça, c'est pour les livres. Et aussi, en effet, cette année, pour la deuxième année, nous avons des vêtements de seconde main pour femmes. C'est un peu des vêtements de luxe pour femmes, pour la collection printemps-été qui seront aussi proposés à nos visiteurs.
Donc ça, c'est aussi une superbe initiative qui fait prendre conscience aux adultes, aux enfants, mais aussi aux visiteurs, l'importance de entre guillemets, recycler les vêtements. Hein.
Oui, exactement.
Oui. Alors, on a aussi d'autres initiatives pour les sportifs, entre guillemets.
Oui, des grands sportifs. Donc, nous avons, comme chaque année, une initiation à la pétanque, mais la grande nouveauté de cette année, c'est nous allons avoir un tournoi de baby-foot sur place, avec normalement, si le temps permet, nous aurons accès à 3 baby-foot. Donc voilà, l'organisation est d'avoir un tournoi par enfant. Après, je pense qu'on est un peu flexible si nous avons 2 parents. Mais ça, c'est la grande nouveauté qui va un peu promouvoir ce sport. Un sport, voilà, qu'on peut appeler ça un sport quand même. Aux Australiens et toute la communauté du North Shore.
Ouais, et on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs de baby-foot dans le North Shore. Ce sera donc un grand succès probablement pour les enfants, mais les enfants auront aussi accès à d'autres activités assez impressionnantes. Hein. On parle aussi de nombreux manèges ou de jeux tenus ou de décorations, de maquillage tenus par les bénévoles.
Oui, exactement. Donc, nous avons des manèges mécaniques, c'est-à-dire des manèges que vous trouvez parfois dans les fêtes foraines. Alors, on a aussi des structures gonflables pour les enfants de différents âges. Nous avons un stand de maquillage qui est tenu par nos bénévoles. Donc, ça, c'est vraiment le talent de nos bénévoles qui est mis en valeur. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle les traditionnels jeux de kermesse. Donc, avec le chamboutou, des pêches à la ligne. Et donc, il y aura aussi des lots à gagner pour les enfants.
Alors, Sophie, voilà. Vous êtes coordinatrice du marché français pour la première année, je pense. Comment est-ce qu'on organise un événement pareil?
Oui, en effet. Donc, c'est ma première année en tant que coordinatrice. Je suis la coordinatrice, mais nous sommes bien entendu toute une équipe. Hein, donc, nous sommes plusieurs personnes du comité fans à faire partie de cette équipe de coordinateurs. Et après, nous travaillons vraiment avec plusieurs autres personnes qui sont clés. Donc, chaque pôle, ce qu'on appelle chaque pôle, un responsable de décoration, de musique, d'équipement, de logistique, de stand. C'est vraiment une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent ensemble. Et bien entendu, nous travaillons énormément avec l'équipe qu'on appelle du bureau de l'association qui est sur site, qui est dans l'école, donc la manager et Anne Bentley et leur équipe Jessica, Maëva et Aurélie. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et notre rôle en tant que coordinateur, c'est de gérer toutes les communications entre les différents groupes et de faire en sorte qu'on n'oublie rien, que tout ce que nous devons faire est fait pour le jour même et on va coordonner avec l'école aussi, avec tout le monde.
Alors combien de volontaires seront impliqués dans ce marché français?
Je crois que selon les autres années, on parle à peu près de 300 volontaires le jour même parce qu'il faut compter tous les stands pendant toute la journée. Donc c'est quand même les gens commencent très tôt le matin et finissent très très tard le soir parce qu'il y a monter tous les équipements, tout ranger après, il y a du ménage, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent pour avoir cette super belle journée et ce qui ne se compte pas que le jour même. Il y a beaucoup de monde qui sont là les jours d'avant.
Alors, on parle donc de 300 volontaires, mais il y aura aussi une mobilisation de la communauté pour ce marché. Ce sont des milliers de personnes qui sont attendues ce week-end-là. Hein.
Oui, j'avoue que si tout le monde fait la danse du beau temps, on espère avoir vraiment plusieurs milliers de personnes. Voilà, ça dépend du temps. Après, le site est assez grand. Donc, même si on parle de milliers de personnes, j'avoue que les gens sont assez dispersés sur tout le site et je trouve que par rapport aux années d'avant, même si on a beaucoup, beaucoup de monde, l'ambiance reste toujours assez sympa. Il n'y a pas trop de problèmes de queue, il n'y a pas de problème de cette sensation, on va dire, d'avoir trop de gens. Et ceci nous permet d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup de visiteurs.
Alors, Sophie, il faut aussi préciser que cet engouement, ça aussi pour une bonne cause, entre guillemets, c'est pour les fonds. Les fonds seront en effet collectés pour servir à financer les activités de l'association. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les particularités de cette école publique de Killarney et de ce programme bilingue de FANS?
Oui, donc notre association a 26 ans et c'est une association à but non lucratif. Elle a été créée il y a donc 26 ans par un groupe de parents d'élèves. Et la mission, c'est vraiment la promotion de la langue et la culture française dans le North Shore. Après, ce que le programme bilingue de Killarney offre, c'est une immersion unique. Je crois que c'est un modèle unique en Australie où on va dire 85% à peu près des élèves inscrits à l'école publique font partie du programme. Après, une fois qu'on est dans le programme, on peut faire partie de ce qu'on appelle de la filière francophone. Donc ça, c'est pour les enfants qui ont déjà le français à la maison, donc on va dire comme parents de mes enfants à moi. Ou sinon, il y a la filière anglophone pour ceux qui apprennent le français comme une nouvelle langue ou qui ne sont pas, qui n'ont pas le français courant dans leur famille. C'est vraiment assez particulier. Et donc, en effet, comme vous avez dit, tous les frais et les fonds levés dans ce grand marché nous servent à couvrir les coûts de l'association. Donc, c'est vraiment un événement très important et essentiel de notre modèle financier parce qu'il faut, voilà, ça nous sert à payer les salaires des professeurs et aussi les coûts du déroulement du programme, c'est-à-dire toutes les ressources pédagogiques, tout le matériel pour faire fonctionner le programme.
Alors, ce marché, Sophie, mais c'est aussi peut-être une belle opportunité pour les parents qui sont intéressés par ce programme et qui sont intéressés pour inscrire leur enfant à Killarney Heights. Est-ce qu'il y aura des stands d'information pour les aider à comprendre mieux comment cela fonctionne et découvrir l'école?
Oui, en effet, c'est vrai que c'était notre communication sur le jour du marché touche toutes les communes alentours et touche, on va dire, un très très grand public parce que nous, on veut que les personnes viennent sur site. Et sur site, on aura en effet un stand de fans qui sera là pour donner des informations sur comment fonctionne le programme, comment faire pour y rentrer, comment s'inscrire, etc. Et c'est surtout l'occasion de discuter avec des gens. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé, par exemple, de discuter avec des familles nouvelles qui ne connaissent pas. Et c'est vrai qu'en tant que parents d'enfants qui suivent le programme de fans, on peut expliquer, on peut raconter notre expérience. Et c'est vrai que c'est vraiment très sympa de pouvoir partager avec d'autres parents qui font déjà partie du programme.
Très bien, Sophie. Donc, on va peut-être rappeler une dernière fois le lieu et la date de ce superbe marché français.
Oui, donc c'est ce dimanche 16 novembre sur l'école, sur le terrain de l'école Killarney Heights Public School dans le North Shore de Sydney. Et c'est de 9h à 4h.
Et l'entrée voilà. est gratuite.
Donc, oui, c'est vrai. Bon point, l'entrée est gratuite. Et voilà. Donc, généralement, notre marché arrive, même s'il pleut, s'il y a du vent, on sera là. Tous les bénévoles seront là pour accueillir tous les visiteurs par n'importe quel temps. Voilà. Donc, on espère que tout le monde viendra nombreux et que tout le monde passe une superbe journée.
Je suis certain voilà. que ce sera une magnifique journée. Bravo, en tout cas, Sophie, pour cette initiative et pour ce beau travail.
Merci. Merci à toi, François.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
C'était fini, on est quand même parti loin des gens, loin de Paris. Est-ce qu'on sera plus joli? Se sauver dans les rires, dans la nuit, dans un lit. Ce monde est pas poli, t'étais le seul gars gentil. Poussière sous le tapis, café à refroidi, amour à refroidi. Je crois qu'on s'est tout dit. On s'est pas vu s'affaiblir, c'est facile de se mentir. On se croit toujours solide jusqu'au jour de la collision. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel et ne tombent jamais? Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grêle et les turbulences? Faudra refaire tous les murs, changer les photos, les peintures.
Et c'était Marguerite et les avions, chanson qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de novembre. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Bien, nous avons le plaisir d'avoir depuis Paris Salim Tourabali. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Et bienvenue sur les ondes de Radio SBS en Australie.
Oui, c'est un grand plaisir pour moi de raconter mon histoire un peu du 13 novembre avec Radio Australie.
Absolument. Donc, vous êtes agent de sécurité au Stade de France et racontez-nous ce soir du 13 novembre 2015. Vous avez pu faire éviter un carnage.
Oui, le 13 novembre 2015, j'ai été appelé à travailler au Stade de France pour la première fois de ma vie. Moi, ces jours-là, travailler au Stade de France, c'était quelque chose pour moi, très grand plaisir pour assurer la sécurité du match France-Allemagne, un match amical qui était à quelques jours de la fête en 14-18 entre la France et l'Allemagne. Et moi, j'étais très content de travailler pour ces matchs-là. Au fait, j'étais affecté à la porte L des Stades de France et donc tout allait bien, il y avait une grande ambiance, hein. Là j'étais vraiment heureux d'être là, j'ai croisé des supporters français, des supporters allemands qui étaient très sympas et puis voilà quoi, le seul incident que j'ai eu une demi-heure ou 20 minutes avant le début de rencontre, il y a un individu qui voulait rentrer derrière un autre et là je l'ai empêché de rentrer, je l'ai différencié. Par rapport aux autres spectateurs, il était différent, il avait un objectif, il était pressé. Oui, je dois rentrer, il faut que je rentre, voyez. Et là, j'ai tout de suite suspecté de quelque chose, bon, pas pour un kamikaze, quelque chose étrange, quoi. Là, je l'ai mis à l'écart, je l'ai dit, il faut pas rentrer, il faut pas rentrer, ici, ça se passe pas comme ça, il faut pas rentrer, il faut un billet et tout. Et là, je l'ai envoyé quelques mètres devant moi. Je lui ai dit, non, vous restez là, monsieur, ne gênez pas les gens qui rentrent. 10 minutes après, il voulait se décaler vers un autre tripode. Là, j'ai communiqué avec la personne qui était à côté. J'ai dit, faites attention tout en les pointant les doigts. Cet individu va rentrer derrière un autre sans billet. Il n'a pas le droit de rentrer. Là, quand il a vu, vous voyez la communication, comment il est important dans les métiers de sécurité. Donc là, quand j'ai communiqué avec d'autres personnes... là, il est parti. Je l'ai pas revu vivant.
Racontez-nous votre parcours. Vous êtes d'origine mauricienne et vous vous êtes installé en France depuis quand?
Voilà, moi, je suis d'origine mauricienne. Je suis installé en France depuis 1990. J'avais 16 ans. Et puis, moi, j'ai commencé en tant qu'agent de sécurité aéroportuaire. C'est pour ça que j'ai cette vigilance. Et puis, aujourd'hui, je suis agent de sécurité incendie, j'ai les diplômes SECO avec team niveau 2. En fait, c'est le même diplôme que les sapeurs-pompiers. C'est cette professionnaliste aujourd'hui qui m'a aidé à... Vous savez, quand il y a eu l'explosion, j'ai secouru les gens, j'ai pris en charge des victimes, j'ai parcouru les stades de France pour demander les gens qui sont à l'extérieur de rentrer à l'intérieur. Les victimes que j'ai pris en charge, j'ai quand même des images choquantes, quoi. J'ai remarqué toute longue de leurs pantalons, il y avait des miettes de chair. Et à cet instant-là, je ne savais pas si c'est la chair du kamikaze qui a été explosée sur le pantalon. Moi, j'ai pensé que les victimes avaient pris des coups de fusil dans les jambes. Et voilà, j'avais les mains remplies de sang. J'ai quand même des images choquantes, quoi. Aujourd'hui, quand je raconte, comme si ça vient de dépasser, quoi.
Et puis Salim, là en ce moment, on est en plein Euro 2016. Comment le vivez-vous cette compétition?
Le 13 novembre 2015, ça reste gravé dans mon cœur tout en pensant à toutes les victimes. Aujourd'hui, on assure l'Euro avec pleine menace, vous voyez. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de pression. Je félicite le gouvernement français, M. Cazeneuve, qui a mis en place un gros moyen sécurité pour assurer l'Euro. J'ai pas peur pour travailler. Allons tous au Stade de France, il y a une bonne ambiance. Seulement, je suis attristé par tous ces menaces, quoi, dans un milieu sport. On doit respecter le milieu sport, ne pas menacer le milieu sport, voyez. Ça, je suis un peu attristé par toute cette menace dans un milieu qu'on doit le respecter, quoi.
Expliquez-nous un petit peu le fan zone. Comment ça se passe avec ces fan zones pour l'instant, pour l'Euro?
Ben, pour l'instant, les fan zones, c'est bien contrôlé. Même moyen que les stades, il y a 3 contrôles, un pré-contrôle, un palpachot, les fouilles des sacs. Pour l'instant, il n'y a aucun incident, hein. Ça se passe très bien, tout le monde participe, les Français, les gens qui viennent à l'étranger, tout le monde participe. Je pense le moyen est bien, et là il y a un gros moyen qui est quand même mis en place, quoi. Aujourd'hui tout va bien, quoi, pour l'instant.
Et j'imagine que vous allez soutenir les Bleus pour la finale.
Moi, j'aurais bien aimé une finale France-Allemagne. Comme ça, on va oublier les mauvais souvenirs. On va partir sur les bons pieds pour les matchs. Voilà.
Puis, je vois aussi que les Mauriciens de Paris ont créé une page Facebook PSG Île-Maurice.
Oui, tout à fait. C'est très sympa, quoi. C'est très sympa. Par contre, c'est ce que je vais vous raconter. Vous savez, dans mon histoire, j'ai pas eu que des mauvais souvenirs. Grâce au 13 novembre, grâce à ma professionnaliste, j'ai rencontré les présidents de la République. J'étais reçu par les Bleus à Clairefontaine, voyez.
Oui.
Et puis j'en ai fait plein de rencontres. J'étais médaillé d'argent par les ministères intérieurs français, médaille d'argent de la sécurité intérieure France. C'est quand même quelque chose. J'ai participé à la grande conférence NFL à Orlando, voyez,
oui.
Auquel j'ai eu une heure de discours devant 500 staffs des NFL. Et encore, vous savez, la NCS4 aux États-Unis qui m'a invité, qui m'a envoyé mon billet. Le lendemain de la finale, je vais prendre l'avion pour Arizona.
Et est-ce que vous avez eu la chance de rentrer à Maurice depuis le 13 novembre dernier.
Et je pense que je vais y aller en mois d'août.
Et puis vous travaillez aussi sur un livre qui va sortir prochainement sur cet incident du 13 novembre dernier.
Tout à fait, on travaille chez un livre, je participe à beaucoup de conférences. Aujourd'hui, je suis l'acteur de quelque chose. En fait, je passe un message de solidarité pour que, voilà, que les gens ne se fassent pas embobiner par des mauvais messages. Vous savez que, qu'on reste l'humain, qu'on met la civilisation en premier avant autre chose, vous voyez.
Salim Tourabali, merci à vous. Et quel est votre pronostic pour le gagnant de cette finale? La France, bien sûr.
Oui, je pense que ça va être un match serré avec un petit score. Hein. 1-0 la France.
Allez les Bleus.
Allez les Bleus.
Salim, merci à vous et bonne continuation.
Et merci, hein, je reste à votre disposition.
Ben, je reviendrai vers vous quand la France va être en finale.
Merci, merci beaucoup. Et le lendemain, la finale, moi je pars à Arizona pour une conférence auquel je vais avoir un award.
Merci et félicitations.
Merci, bonne journée à vous.
Merci Salim, au revoir.
Au revoir.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis. Marcher, courir, nous éreinte.
Et c'était Feu Chatterton en ce samedi sur Radio SBS avec leur chanson Le Labyrinthe. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants où on va parler de boulangerie avec un accent mauricien.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Je suis dans nos studios de Melbourne avec Johanna et Ben Jean-Louis de la boulangerie-pâtisserie de South Levin à Malvern East. Bonjour Johanna, bonjour Ben et bienvenue dans nos studios.
Bonjour.
Bonjour Audrey.
Johanna et Ben, vous avez des racines mauriciennes. Je crois que Johanna, vous avez entre autres étudié à Paris. Parlez-moi de votre parcours avant de South Levin. Qu'est-ce qui vous a donné le goût du pain, des gâteaux?
Ça commence, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu hospitalité. J'ai commencé mes études en Angleterre, culinary art à Southampton. Après, je suis venue joindre mon frère à Melbourne 2007-2008, je m'en souviens plus, dont j'ai étudié la pâtisserie. Après, j'ai travaillé un peu à Melbourne, pas un peu, je travaillais dans les restos, dans les cafés, et graduellement, getting promoted and running a pastry. Et I found a new love for pastry rather than being the kitchen. 2017, on part en France, et là, je regarde un petit peu les écoles, et là, j'arrive à Bercy. Et là, je vois EBP, École Boulangerie Pâtisserie de Paris. Et là, je rentre, je commence à parler avec les dames. Et là, je dis, OK, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, je fais une application comme ça. Et après, ils me disent, j'ai une lettre saying that I've been accepted. And then I was like, oh, okay, so basically I work hard, save my money, and then next year I go back in France, study for 1 year, full training in Paris. Yeah. And then the teacher, I remember, said to us, du moment vous commencez à faire le pain, vous allez tomber amoureux. Et c'est vrai, c'est une science, c'est extraordinaire de travailler avec le pain. Et la viennoiserie, obviously.
Et puis, vous êtes retourné en Australie et j'imagine qu'ouvrir votre propre boulangerie, pâtisserie, c'était un rêve que vous aviez?
J'ai toujours rêvé d'avoir un petit resto ou café, mais boulangerie, c'était un peu... Je sais pas. Et après, je suis pas retournée directement en Australie. Je suis retournée à Maurice et là, je travaille un petit peu dans une French bakery up north the island. Et au moment de retourner en Australie, il y a Covid. On est resté, moi et Ben, on est resté à Maurice avec la famille. Et après 2019 ou 20, je me souviens plus. On est retourné en Australie et là, je commençais à travailler à Prahan Market. J'étais head pastry chef d'un petit shop qui s'appelle Sweet Greek. Et là, je travaillais pendant un an et quelques. Et un jour, Ben me dit, bon, on va faire quoi là? Je dis, what do you mean? Are we opening that business? Yes or no? And I was like, okay, let's do it then. C'est lui qui m'a motivé à le faire en général. Parce que moi, j'étais, okay, I'm good. Why would I get that stress of having a business and all that? And then one day he was like, let's do it. And then we start from there.
Une affaire de famille, donc vous avez des rôles différents. J'imagine, qu'est-ce que vous faites chacun?
He is a marketing, the Fita, because he's the Eterna and Fita. He's all about fixing everything, the maintenance and paperwork, admin. Me, I'm more about the product development, the production and managing the staff.
Et comment c'est travailler ensemble, frère et sœur? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous avez des conflits? Comment ça se passe?
Oh, c'est...
Il y a toujours des tiraillements, tu vois, là, il y a beaucoup... des arguments, mais on fait travailler des trucs.
Yes, it's good. We get along really well because he knows me, I know him. Yeah. So, yeah, it's, I think, really a good team. Because, like, when he knows his stuff, I know my stuff. When I say to him, please do this, he will do it. And when it comes to budgeting and all that, et je vais lui demander, et là, du coup, il va dire, no, let's do this way. On va le faire comme ça, on va faire comme ça. S'il y a une bonne entente, c'est du moment qu'il y a des compromis de sa part et des compromis de ma part, et ça marche. C'est pas tout le temps facile, mais je pense que pendant... Ça fait un an qu'on est ouvert. Je pense que, ouais, ça marche entre nous. Ça n'affecte pas notre relation frère et sœur.
Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez à votre menu? Donc, vous avez du pain, des viennoiseries, des gâteaux. Qu'est-ce que vous offrez?
J'essaie d'emmener Paris normal Venise. Même le décor, les chaises, c'est très parisienne. On essaye de faire des gâteaux en française, des gâteaux françaises, mais avec une petite touche australienne. Parce que il faut pas oublier aussi qu'on est en Australie, les Australiens aiment bien, se retourner à leur base, à leur basic. On n'essaie pas de faire des trucs trop fancy, trop, je sais pas, comme les entremets, les macarons, parce que on a essayé, on a vu que ça ne marchait pas. Les Australiens partent toujours ce qui est bien à leur origine. On fait des spéciales françaises comme les galettes de roi. On leur fait goûter, ils adorent. Et petit à petit, on introduit, les éduques, ça vient de telle région, la cuisine terroir en France, parce que je passais beaucoup de temps en France aussi. Et baguette de tradition, c'est un des big sellers, la viennoiserie. Comment vous dire ça? J'ai pris 3 ans pour développer ma pâte à viennoiserie, parce que quand j'étais en France, je travaillais avec la farine française. Et en revenant, parce que le lait, tout ça, c'est différent, c'est une science. Et en retournant de France, en retournant de l'île Maurice, j'ai dû importer le beurre de Belgique, de France, même servir les beurres australiens, Nouvelle-Zélande, et pour avoir notre produit final. Et aussi, on fait quoi, Ben? Beaucoup de sandwichs. Les Australiens, ils aiment le pie et leur sausage roll. Du coup, on fait une très bonne pâte feuilletée à la française et on met le sausage roll dans la pâte à feuilletée française. Voilà.
The best of both worlds.
The best of both worlds, yes, yeah. Exactly.
Et yeah. Donc, un menu très français, mais j'ai vu que l'an passé, vous aviez un week-end, un événement spécial avec des plats de Maurice.
Oui.
Racontez-moi, donc, qu'est-ce que vous avez servi durant ce week-end-là?
On fait ça 3 fois par an. Là, la prochaine sera en mars. En mars pour la fête nationale de l'île Maurice. Et du coup, on a fait les pâtisseries mauriciennes parce qu'il faut savoir, il faut faire savoir aussi parce que la pâtisserie mauricienne est très influencée par la pâtisserie française. On avait fait génoise, on avait fait on a travaillé en collaboration aussi avec une autre pâtisserie mauricienne qui se trouve à Limbrook, ça s'appelle Wistakers. Eux, ils font la pâtisserie mauricienne. Et là, j'ai dit, on va travailler ensemble. Et elle a dit, ah ouais, pourquoi pas. Et c'est, it worked really well, it was a great success, we sold out really quickly. Et c'était une très belle ouais. expérience.
On va le refaire
en mars.
Pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment en pâtisserie mauricienne, donc qu'est-ce que vous aviez au menu?
Alors, il y a trois items qui est très populaire dans la pâtisserie mauricienne. Un truc qui s'appelle puits d'amour. C'est un genre de tarte sucrée, très sableux. Et on a une crème diplomate qui est pochée et avec du coconut. Et avec, des fois, on met la gelée de fraises ou de framboises ou de cherry. La deuxième, c'est napolitain. C'est, encore une fois, deux biscuits sandwich together avec la confiture de framboise. Après, on met une glaçage rose au-dessus, et ça aussi c'est très populaire. Et la troisième, je pense que c'est tarte banane. Tarte banane. Et on fait cuire les bananes très caramélisées. Après, on met dans in the tart, and then we just bake it. It's really good. Really, really good. Yeah.
Et donc, vous avez été sold out, ça a été très bien accueilli. Est-ce que vos clients étaient surtout des gens de Maurice? Il y avait beaucoup d'Australiens aussi qui étaient intéressés. J'imagine qu'ils ne s'y connaissaient pas beaucoup.
Oui, il y avait aussi beaucoup d'Australiens.
Il y avait beaucoup d'Australiens qui veulent goûter, veulent essayer. C'est quoi ça? Vous voyez, il y avait du pâté poisson, pâté viande.
Poulet,
tout ça. Mais
du feuilleté custard, ouais. Yeah.
Ils voulaient essayer.
Ils ont vraiment aimé. Ils nous ont demandé c'est quand la prochaine. Pas seulement les Australiens, il y avait aussi les Indiens.
Je sais, parce qu'il y a une grosse communauté indienne à Maurice aussi, donc j'imagine.
Oui, hindoue, oui. Il y a une grosse communauté hindoue, musulmane. On est très multiculturel. Et c'est ça qui fait la beauté de l'île Maurice, très multiculturel. Là, bientôt, ça va être Chinese New Year. On célèbre ça aussi, comme la Pâque, comme le Eid. Comme le Ramadan, on célèbre, et comme Diwali, on célèbre et on mange.
Et vous disiez donc que le prochain événement mauricien, ça va être en mars.
Oui, en mars. On va faire encore plus parce qu'il y a des gens qui sont venus de Geelong, de Pointe-Cook, et quand ils sont venus, c'était ça, it was sold out, et là, ils n'étaient pas contents. Hein. Là, on va faire encore plus, mais... La dernière fois, on a fait plus de 2000, presque 3000, quoi. Individuels, gâteaux, des trucs salés, et à 11h, we were sold out. Yeah.
Donc, on va garder un œil là-dessus. Alors, j'imagine qu'en vous suivant sur Instagram, on peut être au courant à
oui.
chaque fois que vous répétez le week-end mauricien, donc pour savoir exactement c'est quand.
Yeah, on va mettre tout ça sur Insta, yeah.
Donc, on rappelle de ça, le vin, c'est situé à Malvern East. C'est tout près du centre commercial Chadston. Merci beaucoup, Johanna et Ben, d'être venus nous visiter en studio à Melbourne.
Oh, thank you so
Merci
much.
Beaucoup.
Thank you so much for welcoming us. It was an honor. We're very happy to be here.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Dieu de la tête et la chanson, leur dernière chanson qui fait partie d'ailleurs de notre sélection musicale en novembre, La Maison des âmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.u/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi. Et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.